c'est la tefila, c'est-à-dire la amida, c'est-à-dire le Shmoneh Esrei. Ça, c'est la tefila. Tous les autres rites du Sidour sont d'autres rites. Souké des Imra, c'est autre chose. Les Birkot HaShachar, c'est autre chose. Le Yotzer, c'est autre chose. Kriyat Shema, c'est autre chose. Nefilat HaPayim, c'est autre chose. Tachanunim, c'est autre chose. Kriyat Shema, c'est autre chose. Ce sont d'autres rites. Quand je dis le Kaddish, je ne fais pas une prière. Ça c'est le jargon franc-bleu. Kaddish, ce n'est pas une prière. Kaddish, c'est un Kaddish. Un chauffard, ce n'est pas une trompette. etc. Faites bien attention à cela. Alors, nous avons des rites préalables à la tefila mamash, c'est-à-dire la prière, la amida, le shmoneh esrei. Et en particulier, je pense que la règle générale a été qu'en fin de compte, c'est la lecture des psaumes qui sont un des moments les plus importants de préparation au Kovod Rosh de la tefila. Mais je vous conseille d'étudier ces problèmes dans le livre du Rabbi Munk, Le monde des prières. Vous avez beaucoup de références à ce sujet. Et qui vous montre les différents étapes du cheminement spirituel de la Kavana pour arriver au niveau où on se trouve au moment de la tefila. Maintenant, je voudrais quand même ajouter quelques indications à la question de tout à l'heure. Vous savez très bien que nous avons une grande règle. On ne conclut pas pour le maasé, on ne conclut pas pour le comportement de l'étude. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de conclure comment faire de ce que vous avez appris quand nous étudions ensemble. Je n'ai pas le droit de vous dire c'est comme ça qu'il faut faire ou autrement. Ça, vous demandez à votre rabbin. Et parce que c'est une règle générale que la halakha le maasé doit être donnée par le rabbin qui connaît ses juifs. Parce que nous n'avons pas, si vous voulez, une mécanique où on met un nickel et puis il sort une halakha. Vous refusez ce que je veux dire. Chaque shéla, chaque demande, c'est un procès tout entier et il faut savoir quelle est la réponse qui correspond à celui qui a demandé cette demande. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas si c'est à vous que j'avais cité cela dans ce séminaire, ou peut-être dans... Je ne me souviens plus, en fait, j'ai une mémoire trop pleine. C'est ceci, on a posé dans la Gemara une shéla insolente. Un apikos qui pose une shéla insolente. Mais la Gemara la cite parce qu'il y a une chokma. Elle dit, les rabbins, à quoi ça sert? Nous interdire ce qui est permis, ils ne peuvent pas. Nous permettre ce qui est interdit, ils ne peuvent pas. Alors à quoi ils servent? Et la réponse est très simple. Ils servent à nous dire ce qui est permis, ce qui est interdit. Est-ce que vous avez bien compris le problème? Est-ce que c'est clair? Et en général, la règle est la suivante, elle est reliée à la chose suivante, c'est dans la paracha de Matot et Matzré, la paracha des Nedarim. C'est bien Matot. Voilà, à la fin de Bemidbar. Et il y a le problème de la suspension des vœux. Si quelqu'un a fait un vœu, à quelles conditions ce vœu sera suspendu ou pas? Un problème très complexe. Et alors, c'est le cas particulier où la mitzvah est transmise d'abord aux chefs des tribus. Raché à Matot, les chefs des tribus. Alors on s'est posé la question, mais pourquoi pour cette mitzvah en particulier, il faut rappeler que la Torah avait été enseignée la première fois de la manière suivante. Moïse enseigne à Aaron. Ensuite, les fils d'Aaron viennent, et Moïse enseigne aux fils d'Aaron, et Aaron entend comment Moïse enseigne aux fils d'Aaron. Ensuite, les chefs des tribus viennent, et Moïse enseigne aux chefs des tribus, les fils d'Aaron entendent comment, les Kohanim entendent comment Moïse enseigne aux chefs des tribus, Aaron entend comment, etc. Et ensuite, les présidents de tous les tribunaux, et ensuite, tout Israël. Et chaque fois, les plus hauts entendent comment on enseigne, au plus généreux. Est-ce que c'est clair? Parce que la grande règle est la suivante. Hein? C'est le plus grand qui doit enseigner au plus petit. Et malheureusement, cette règle traditionnelle s'est perdue avec le temps. Et c'est le plus petit qui enseigne au moins petit. Alors vous comprenez pourquoi tout s'est médiocrisé à un point. On a enseigné ça du Gaon de Vilna, qui était le plus grand enseignant de son temps. Sa mitzvah de Talmud Torah, c'est quand il allait à l'Onek Shabbat, dans sa synagogue, enseigner aux cochers et aux marchands de frites. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est le plus grand qui enseigne au plus petit. Et alors comment ça se passe maintenant? Quelqu'un qui connaît trois mots de plus, qui enseigne à quelqu'un qui connaît trois mots de moins. Donc il faut réintégrer cela. Top. Et alors, à propos de quoi j'ai cité ça?
À propos de l'enseignement de l'Apikoros qui était dogme marin.
Oui, mais à propos de quoi? À propos de quoi? Non, c'est pour vous dire, tout simplement, ne tirez pas de conclusion pour la pratique de ce que nous étudions ensemble. Je ne peux que vous donner que des règles générales. C'est clair. Si vous avez une shéla, demandez-la à votre Dayan. Et ne dites pas Manitou a dit, parce qu'on ne sait jamais lequel c'est ce Manitou-là qui a parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, premièrement, c'est vous qui avez posé la question, alors je vous réponds pour vous. D'après le Shulchan Aruch, ce sont les hommes qui sont soumis aux règles de Shachrit, Mincha, Arbit, et du texte, celui-là et pas un autre. Les femmes réalisent la mitzvah de la tfila n'importe quand dans la journée, avec n'importe quel texte et n'importe où. Ça, c'est la règle. Par conséquent, votre question n'avait pas d'objet. pour vous. Mais ceci dit, c'est pas interdit que vous participiez à la liturgie du midi. Et puis, deuxièmement, si vous voulez, il est bien évident que si on a compris qu'il faut un Kovod Rosh minimum pour pouvoir commencer la tefila, eh bien, la règle est très claire, j'y ai fait allusion hier, si on n'est pas capable du Kovod Rosh, on n'a pas le droit de faire la tefila. Et alors, ça donne d'alibi à personne. Mais, la faute ici serait non pas de ne pas avoir fait la tefila, mais de s'être mis dans un cas de migraine, et que la migraine empêche le Kovod Rosh. C'est en général comme ça d'ailleurs pour toute faute. On n'est pas tellement jugé pour l'acte de la fin de la chaîne des péripéties, mais pour l'acte de l'origine qui a fait venir les mécanismes qui ont... C'est clair. Donc, alors je vous répondrai, la règle est très simple. Si vraiment vous sentez que votre tfila serait grotesque, serait blasphématoire, alors il vaut mieux ne pas. Mais ne dites pas le rabbin a dit. Je vous ai cité la règle qui que... Alors ceci dit, vous demandez à votre rabbin de... Et est-ce qu'il y a une... Oui.
Oui. Est-ce que c'est pas rapproché du souci constant du judaïsme d'avoir une approche globale des choses à opposer à l'approche par partie du panthéisme et autres?
Attendez, les deux choses je comprends, mais le lien j'ai pas compris, expliquez plus.
Je veux dire qu'avoir ce sentiment mélangé, c'est l'approche globale de ce que personne peut ressentir. On ne peut pas dire soit heureux, soit vit dans la crainte. De la même manière que dans le panthéisme, on dit qu'il y a le dieu pour tel sentiment, le dieu pour tel autre.
Ah, il faudrait plutôt dire le polythéisme.
Le polythéisme.
Ce n'est pas la même chose.
Le polythéisme, sentiment, c'est l'approche globale des choses. Oui. C'est un peu comme la création du monde. La nuit commence à la fin du jour précédent. C'est-à-dire qu'il y a une continuité constante et on a une approche globale des choses. Et un sentiment, c'est quelque chose de global qui n'est pas simple. Et on nous demande d'accepter cette complexité. Plus on aura cette...
En d'autres termes, non, c'est très exact. En d'autres termes, vous dites que cette définition du sentiment religieux est une définition monothéiste.
C'est ça.
Vraiment
la base
de la différence. C'est homogène au monothéisme. Voilà. Mais alors, il fallait opposer au polythéisme, non pas au panthéisme. Très bien, c'est exact.
D'ailleurs, par rapport à ça, c'est le côté paradoxal, parce que l'expérience de pureté que suppose la prière est une expérience de mélange.
Non, pas de mélange. Moi, je n'avais pas employé le mot de mélange.
Oui, non, parce que c'est la chose que...
J'avais dit mixte.
Oui.
Mais au fond, si vous voulez, nous sommes obligés d'employer un vocabulaire français. Je préfère le mot synthétique. Synthétique, comme ça a été dit. Synthèse, oui.
Moi, justement, c'est un mot que je n'aime pas.
Attendez. Et je vais vous en proposer un. Voilà de quoi il s'agit. En fait, mais je crains que mon vocabulaire soit un peu handicapé par le temps où j'ai fait mes études de philosophie. Et mon vocabulaire préférerait le mot authenticité. C'est-à-dire, finalement, on a désigné ici la condition authentique de l'homme authentique, c'est-à-dire se connaissant comme créature libre sous le regard d'un juge. C'est ça le moment de prière. Mais comme je sais que ce juge, c'est le créateur, joie. Mais comme je sais que ce créateur est le juge, crainte. Mais il y a ici... j'ai peut-être trouvé un mot un peu plus clair. Il y a une expérience globale. Globale.
Opposé à approche par partie.
Exactement.
Une approche par partie, où on voit par un seul organe de sein comme un arc-en-ciel, on peut voir cette couleur, ou bien dire l'arc-en-ciel, c'est un arc-en-ciel.
Oui, exactement.
Chacun ne voit qu'une couleur.
Oui, c'est la notion de unité qu'il y a dans la vérité, la notion d'unité qu'il y a dans la vérité Et la notion d'unité qu'il y a dans la vérité, c'est bien la notion d'authenticité. En hébreu, ça s'entend dans le même terme. Emet, amiti. Amiti, ça veut dire plus que véridique. Ça veut dire authentique. Emet. Je suis devant le Dieu unique. Donc, chesed vedin. Très exactement. Et alors, là, vous me mettez sur le bord d'un chidouche. Ça fera le deuxième que je vous devrai cette semaine. C'est ceci, c'est qu'en araméen, hein, comme nous avons vu, prier, ça se dit le bakesh rachamim. Et rachamim, c'est l'unité de chesed et din. Vous comprenez comment ça? Oui.
Au niveau du sentiment humain, on peut craindre quelqu'un sur l'unité.
Exactement. Alors que par rapport au devant Dieu, il y a ahava et ira. Ahava parce que Dieu, ira parce que Dieu. Ahava parce que Olamaba, ira parce que Olamazé. Ahava parce que le jour, ira parce que la nuit, etc. Et pour généraliser, Ahava parce que libre, mais ira parce que libre. Parce que je suis libre, je peux réussir, joie. Mais parce que je suis libre, je peux échouer, crainte. Et quand j'expérimente à la fois ces deux dimensions de moi-même, alors c'est ça l'homme authentique devant le Dieu authentique. Et c'est ça ce qu'on appellerait en français le sentiment religieux. Vous voyez qu'on est très loin des théologies païennes. Toute théologie étant païenne sur ce sujet.
C'est extrêmement difficile à saisir cette notion justement de religieux dans le judaïsme, qui n'a rien à voir avec tous les enseignements de la pureté qui peuvent traîner un peu partout. Puisque l'expérience...
Attendez, en langue occidentale. En langue parce que si nous parlions de langue sémite, mais l'arabe, le phénicien...
Mais je reviens à cette notion synthétique et globale, parce que j'ai l'impression qu'effectivement, dans le judaïsme, l'expérience de la globalité n'est pas du tout une expérience de parties qu'on met ensemble, mais plutôt une expérience contradictoire. C'est-à-dire l'expérience des contraires. Justement, l'expérience de la crainte.
De la marloquette.
Non, justement, pas de la marloquette. Des contraires, je précise, des contraires au sens où justement vous avez parlé par rapport à la crainte et à la joie. Disons, la retenue et l'espoir, voilà les deux dimensions de la vie morale.
La symétrie.
C'est pas marloquette, c'est-à-dire que c'est du dedans même.
Non, ce que je craignais, c'est le vocabulaire hegelien sous-jacent, dialectique et contradictoire. Ça, c'est pas très juif.
Ça repose la question que je trouve très importante.
Mais oui, mais cette globalité est au-delà des deux dimensions. C'est pourquoi j'ai dit surhumain. Parce que tant que je s'occupais à l'une ou à l'autre, et à l'une et à l'autre, c'est pas encore authentique. C'est quand c'est englobé dans une expérience unifiée. Et c'est pourquoi, quoi qu'on en ait dit dans les temps contemporains, surtout lorsque les études sur le Maharal ont commencé à apparaître, la dialectique hegelienne n'est pas du tout ce à quoi le Maharal pense lorsqu'il parle de l'unité des contraires.
Oui, parce que justement, cette dialectique, c'est le fameux global, le global qui n'a rien à voir avec l'unité.
En langage.
Oui, dans mon vocabulaire global, ça va encore, mais je crois que je vous ai compris. Mais je crois que vous avez compris.
1, ça ferait 2, et 2, ça ferait 3,
en réalité. Là, je ne suis pas. Expliquez plus.
L'unité peut se décomposer en deux éléments opposés l'un à l'autre, mais la résultante doit être avec un troisième élément.
Ah, ben c'est ça. Ça, c'est très joli, parce que ça va nous faire un joli petit chidouche, un peu pourri, mais enfin joli. Et à propos de Hana, elle voulait être 3. Hana. Elle voulait le troisième, c'est-à-dire l'enfant. C'est clair, non? C'est-à-dire la véritable unité, c'est pas encore quand on est deux, c'est quand on est trois. Et c'est ce qu'a dit lequel des. Et à propos duquel des enfants de Jacob, Léa, rappelez-vous le verset, quand le troisième enfant est né. Lévi, Léa. Ata, il avait Elai Ishi. Parce que le troisième est là, c'est-à-dire l'enfant. Le troisième fils. Bien. Mais oui, non, mais c'est lorsqu'il y a le troisième enfant qui sont trois, le père et la mère. J'ai entendu une fois une très jolie explication des chassidim là-dessus. C'est que, vraiment, une explication genre bonne femme, mais très très profonde. Et pourquoi Léa, lorsque Réhouven est né, elle a dit une louange, lorsque Shimon est né, elle a dit une louange, et lorsque Lévi est né, elle a dit, maintenant mon mari m'accompagnera. Ata il avait Elaïch. Alors ça a l'air un peu bonne femme, mais c'est au fond très profond. C'est-à-dire, bon, quand j'ai eu un fils, j'allais encore au marché toute seule. un fils que je tenais par la main et le filet. Quand j'en ai eu deux, ben je les tenais les deux par la main et le filet, je le mettais autour du cou. Mais maintenant que j'en ai trois, il va m'accompagner au marché.
deux remarques. La première, qui est restée en filigrane, qui je crois est très importante, c'est que toute la dialectique de la Gomara évacue également la notion de sincérité.
Explique.
Je veux dire que la sincérité n'est pas un critère suffisant pour prier. C'est pas parce qu'on est sincère qu'on a le droit de prier.
Ah, explique plus.
L'authenticité est différente de sincérité.
Ah, très bien.
La sincérité, Hitler était sincère.
Ah.
À la limite, on pourrait dire que la sincérité n'est pas le critère. Je crois que ça n'a pas été dit aujourd'hui. C'est pour
non,
ça qu'on parle, justement, que la Gemara évacue la sincérité est une notion subjective. Or, ce que la Gemara nous demande, c'est de nous mettre dans une situation
d'authenticité
qui n'a rien à voir avec la sincérité.
Très bien. C'est exact.
Parce que le grand risque qu'on entend dans la nocivisation actuelle, c'est de toujours justifier tout par la sincérité. Donc l'attitude religieuse également, du moment qu'on est sincère, on a le droit de prier. Or ce n'est pas, la Gemara ne se satisfait pas,
sans
le dire explicitement, après les exemples pris de cela.
Ça me permettait d'ailleurs un peu au-delà, et c'est malheureusement le critère de l'engagement politique, et c'est catastrophique.
La deuxième remarque, c'est que le texte parle de Tfila, mais comme en citant Ildo et Hachem de Ira, la Tfila n'est qu'une modalité de l'Avoda. On pourrait donc dire que cet enseignement s'applique à toute Avoda.
C'est-à-dire que le Kovet Rosh est beaucoup plus général que simplement le sentiment de la prière.
Et la différence qu'il peut y avoir, une illustration entre notre comportement de nous être microscopiques, comme tu le dis souvent, et celui des Avot, par exemple, c'est qu'un exemple de situation de Avoda par excellence, mais dramatique, dans laquelle on demande, et dans laquelle celui qui accomplit cette Avoda à la fois Yira et Simcha, c'est Abraham,
au moment
où il s'apprête à faire sa guérison, et où le Midrash dit, n'est-ce pas, à la fois il pleurait, mais s'il avait pleuré seulement, sa mission n'aurait pas été complète. À la fois il se réjouissait et ses larmes coulaient. Or ceci, nous n'en sommes pas capables.
Sauf peut-être à la Neïla et au Canidré.
Où certains en ont été capables, nous le savons, par des récits. On était capable pendant
la Shoah.
Certains gens sont allés, on le sait, à la chambre à gaz, dans cette situation. On a des récits de certaines personnes précises qui ont pu réaliser cela. Mais qui suis-je pour oser parler de ça?
Et d'ailleurs, ce que tu as cité, le Midrash que tu as cité à propos d'Abraham et de Yitzhak d'ailleurs,
et
dit que les anges aussi étaient comme ça. Ils étaient dans la joie que le monde allait être sauvé, mais ils pleuraient. Et les larmes des anges sont tombées sur les yeux de Isaac, et c'est pourquoi en fin de compte Isaac était aveugle à la fin de sa vie, ce qui permet aux historiens des religions de dire que le Zohar a été écrit en réalité par un certain Isaac l'aveugle. C'est une blague, en fait. Non, mais je reviens à cela. Effectivement, ce midrash est cité dans le poème de Etchaher Hatzon, qu'on lit dans le moment de la Hakeda, tant à Rosh Hashanah qu'à Kippour, et l'expression. Je la cite dans le grand Etchaher Hatzon, il y en a deux, un du Rambam et un autre qui est Aïn Bemar Bocha Velev Sameach. C'est exactement cette indication du Midrash. Bien, je crois que ces précisions étaient précises, et effectivement, il s'agit de voir la tentation du paganisme lorsque un sentiment est privilégié et occulte les autres. C'est dans cette globalité, mot qu'il ne faut pas dire, mais dans cette authenticité monothéiste, si vous voulez, de cette expérience, qu'est l'émotion qui doit nourrir le Kovet Rosh que cherchait la Gemara. Dans la suite de la Sugya, vous verrez, mais nous allons arrêter là pour aujourd'hui, on nous raconte des Maasim où effectivement on était en situation de prière avec la joie seule et l'enseignement du maître qui demande de réintégrer notre dimension de la crainte aussi. Peut-être nous suivrons ça demain si vous voulez très en détail.
On m'a de nouveau posé la question de ce que nous avons déjà étudié tout au début, que la tefila comme nous l'avons définie, c'est-à-dire le rite de demande, le rite de prière comme demande, mais qui est relié donc à la notion de jugement, qui est basé sur un jugement parce que c'est lié à la notion de mérite, est une parmi les 10 formes du rite de la prière sous forme de demande. Alors, si vous voulez, j'emploierai le terme le plus général de bakasha. Et encore, c'est un des 10 termes en question, une des 10 catégories. Alors, en tout cas, vous donnez une référence et vous la compléterez par une référence supplémentaire. Et nous allons lire ensemble très rapidement ce qu'enseigne Rashi sur le premier verset de la parasha de Vaetranan, qui est au chapitre 23, au verset 23 du chapitre 3 de Devarim. Chapitre 3, verset 23. C'est lorsque la Torah nous donne la prière de Moïse pour entrer en Eretz Israël. Le verset dit ceci: Va'et Hanan el Hashem, Va'et Ha'i Lemor, Adonai Elokim, Ata Achilota Le'arot et Avdecha. Vous verrez le texte. C'est-à-dire que le récit introduit la prière de Moïse par l'expression Va'et Hanan. Et donc, c'est pas Va'et Palel, c'est Va'et Hanan. C'est le verbe Ishanem. Prière de supplication. D'après le dictionnaire. Et donc Rashi pose une question en se basant sur un enseignement du Sifré. Le Sifré, c'est un des Midrashim sur le livre de Devarim. Mais je vais vous lire Rashi, vous verrez, son explication est à deux niveaux. En Hanun Bekol Makom, Ela Lashon Matanat Chinam. C'est-à-dire ce verbe qui est employé ici dans Va'et Hanan, prier par supplication, dans tout endroit où ce terme est employé, ça signifie que l'on demande matanat hinam, c'est-à-dire un don hinam, et d'ailleurs hinam se relie à cette racine, un don gratuit, c'est-à-dire non basé sur le mérite. Je demande, même si je ne mérite pas, je demande matanat hinam. Afalpi sheyesh lahem la tzadikim. Bien que les justes ont la possibilité, l'itlot be ma'aseem, de faire dépendre leurs prières de leurs actes, c'est-à-dire de leurs mérites, be ma'aseem atovim, de leurs bonnes actions, en mevakshim me etamakom et la matanat chinam. Cependant, ils ne demandent de Dieu qu'un cadeau gratuit. Les fiches à Marlo, et cela se base sur le fait que Dieu, dans une des révélations à Moïse, et c'est dans le chapitre 33 de Shmot, de l'Exode, Vechanoti et Asher Achon, et je gratifierai qui je gratifierai. Et là-bas, le commentaire explique Vechanoti et Asher Achon, même s'il ne mérite pas. Amarlo Bichon va être Hanan. Alors, puisque Moïse connaissait ce secret, qu'il y a aussi une possibilité de la prière sans se baser sur le mérite, et donc c'est une deuxième catégorie, alors il a employé ce terme va être Hanan et Lachon. D'abord, deuxième explication de Rashi, c'est Echad mi Asara leshonot she nikret fila, kedeita le sifre. C'est un des 10 langages dont on se sert, des 10 termes dont on se sert pour dire la tfila, pour dire la prière, comme cela est enseigné dans le sifre sur ce verset au début de la parasha de Va'et Hanan. Donc vous verrez dans le sifre, c'est d'ailleurs cité dans le Malbim, ces 10 catégories de prières, dont la techina est cité ici, la tefila, etc. Mais vous avez remarqué, simplement pour récapituler cet enseignement, vous avez remarqué comment est la formule citée par Rashi au nom du Sifré. Asara les shonot shel tefila. C'est-à-dire que ces 10 catégories s'appellent quand même d'une façon générale tefila. Je pense qu'on doit réserver au terme de tefila dans le sens strict cette notion de la prière de demande, mais basée sur le mérite. Bien.
Au début du cours d'hier, nous avez annoncé qu'on verrait le Rashi sur la Gemara.
Ah là, attends quelqu'un.
Sur la Mishnah. On n'a pas vu.
Oui, on va y arriver. Je vous demande juste une minute, quatre fois. effectivement, je pense que nous allons pouvoir commencer par cela, et ensuite, le temps qui nous restera, nous avancerons dans le texte de la Gomara elle-même. Alors, si vous le vérifiez dans vos textes, vous avez la citation de Rashi tout au début sur la colonne de gauche, la première page. C'est la page 135, sur la colonne de gauche. Oui. Je ne me trompe pas. Non, c'est la colonne de droite.
Kovet Roche.
C'est tout le début. Kovet Roche, Rashi nous donne un mot, c'est Achna. Achna signifie soumission. C'est-à-dire, vous connaissez la racine, c'est l'Eikana, c'est-à-dire être vaincu, littéralement. Et il y a un terme, bon, je vais quand même citer simplement pour mémoire, mais qui n'a pas un très joli sens en français, c'est componction. C'est-à-dire, c'est l'attitude que prend celui qui, a priori, reconnaît sans aucune réticence la souveraineté de quelqu'un d'autre. C'est un mot pas très agréable en français. Enfin, gardons soumission, il y a une allusion extrêmement évidente à l'attitude de la prière dans l'islam. Puisque c'est exactement en arabe le sens du mot islam, soumission absolue, akhna. Bon, eh bien, je pense que, et il est bien évident que dans l'intention de cette explication, est relié à la définition du kovet roch dans le sens le plus fondamental du mot de tfila, c'est-à-dire l'attitude devant le hadon. Et vous voyez l'analogie très directe qu'il y a entre hadon, avec un vav, et puis Dayan, c'est-à-dire dans ce mot de Adonai, Aleph Dalet Nun Yum, il y a cette idée de Adon, d'abord souverain dans le sens le plus général, mais très directement de juge dans le sens de Dayan. La Midat Adin est présente dans l'action de Adonai. Pour ceux qui sont familiers avec les correspondances de vocabulaire, c'est le nom de la Mida de Malchut et qui est la Mida Taddin, Din Rafé, mais enfin, de toutes les façons, c'est la Mida Taddin. Par conséquent, il y a l'attitude de celui qui va être jugé. Et c'est l'indication de la notion de Achna. Si vous voulez, nous allons un peu avancer un peu dans ces kavanot. Le principe est le suivant. Chacune des braïtes, d'abord la Mishnah elle-même, mais chacune des braïtes autres que vous avez dans la suite et qui complète le principe général de la Mishnah, quelles sont les conditions d'attitude préalables qui donnent le droit d'entreprendre la tfila, en omdin leitpalel. Maintenant, vous avez bien cela en tête. La Mishnah nous dit, elamitor kovet roch, ce que nous avons étudié hier. La Braïta, nous avons étudié précédemment, l'omitor din et l'omitor dvar halacha, c'est-à-dire pas du dedans d'une expérience de machloket, d'impossibilité de Torah. Et nous avons aussi lu d'autres braïtot. Chacune de ces braïtot correspond à une des kavanot dans le sidour. Et voilà ce que j'entends par là. Au moment de la prononciation du premier mot du premier verset qui introduit la tfila, et qui est donc le verset du psaume 51, Adonai sefatai tiftach ufi yagit eilatecha. Et je vous dis, enfin non, dans l'étude, je prononce le mot Adonai parce qu'il est écrit Aleph dalet nun yod. Nous disons Hachem lorsque c'est le nom de quatre lettres qui est écrit Yudke Vavke. Eh bien, la prononciation de ce terme est accompagnée par tout un monde d'harmoniques, de kavanot. La première kavana est indiquée par cette explication de Rashi, Achna. Je sais qu'en disant Adonai, je sais que je suis devant un Bet Din. Est-ce que c'est bien clair? Oui, la première kavana. Et c'est la kavana qui correspond au contenu même de l'étude de la Gemara sur la Mishnah que nous avons eue hier, le premier enseignement, c'est-à-dire la kavana de Gilou Bil'Ada, de Eido et Hashem Beira, de Gilou Bil'Ada, c'est-à-dire Simcha Beira Bebatachat, à la fois joie et crainte. Si nous étions devant la Midat Adin totale, qui est beaucoup plus haut dans les Midot, si j'ose dire, beaucoup plus haut que Malchut, alors il n'y aurait que terreur, que tremblement. Mais la Midat Adin au niveau de Malchut, qui est indiqué par le mot de Adonai, c'est din rafé, c'est un din atténué,
déjà, comment dire, comment dire cela, compensé, j'ose, adouci, j'ose plus dire synthétisé, adouci par la Midata Chesed. Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails, nous ne sommes pas en présence de la Midata de Bina, qui elle est terrible, mais de la Midata de Malchut, qui elle, c'est la même, mais plus gentille, si j'ose dire, plus adouci. Et donc.
On n'est plus que tremblement, si vous avez dit au niveau de Malchut.
Non, au niveau de Bina. Non, j'ai pas dit Gbura, Bina, beaucoup plus haut. C'est rien, vous ne comprenez pas, mais vous finirez un jour par comprendre. Et c'est simplement pour indiquer cela, que la kavana accompagne la prononciation, l'invocation du premier mot. Mais, en fait, ce premier mot a combien de lettres? Aleph, Dalet, Nun, Yud. Donc, il y a quatre dominantes de kavanot. Lorsque la kavana du mot Adonai est appuyée sur la lettre Aleph, lorsqu'elle est appuyée sur la lettre Dalet, Nun, Yud, et qui correspond aux quatre braïtot qu'il y a dans la Souillard. Vous voyez la correspondance entre l'élaboration talmudique à proprement parler et d'autre part les kavanot de l'invocation de la tfila. C'est la raison pour laquelle vous savez que lorsqu'on pratique la tfila avec les kavanot, alors il faut très longtemps, parce qu'il faut le temps de formuler la kavana dans la prononciation de chaque lettre et plus exactement de chaque détail de la forme de la lettre qui renvoie à un niveau de kavana bien précis. En principe, lorsque on entreprend de prier avec Kavanot, il faut pratiquement toute la journée pour faire un Shmoneh Esrei. Et oui, nous avons parlé hier un peu de Kavana, pas Kavana, est-ce qu'on a le temps de... C'est pourquoi j'ai dit chacun à son niveau, et au moins la Kavana élémentaire, c'est ne pas faire de faute de prononciation. Par exemple, je me souviens encore quand j'étais tout enfant, et bien qu'en général ce n'est pas du tout recommandé de prier avec Kavanot en dehors de l'Israël, et même dans les derniers temps, on ne permet qu'à Jérusalem même, et je vous expliquerai pourquoi, avec ces kavanotes-là. Hein? Mais ce que j'essaye de montrer vraiment très furtivement, c'est que les kavanotes des kabbalistes, des mekoubalim, kabbalistes ça veut rien dire, des mekoubalim, ne sont pas de la ferveur romantique, mystique, genre Gershon Scholem, enfin je ne sais pas quoi, ou ses commentateurs. Cela procède de l'étude très minutieuse de Braïtot, de la Gemara elle-même, qui traite du bruit. Et il est arrivé, cependant, que le jour de Kippour, et ceux qui avaient déjà passé un certain âge, décident de faire la tfila avec Kavanot. Et alors, je me souviens encore, je revois la scène, alors le Zaken, qui faisait la tuile avec Kavanot, commençait le Shmoneh Esrei de Shachrit à 6h du matin et arrivait à le finir un quart d'heure avant la Neila, et pendant ce quart d'heure faisait tout le reste de la prière de Kippour. Vous voyez à peu près comment ça se passait. Bien, alors en tout cas, pour revenir au problème, alors vous voyez qu'il ne faut pas jouer avec ça. Le problème de la Kavana, ce n'est pas simple. Bien. Alors, il me semble que l'intention de l'explication de Rashi ici, Achna, c'est bien cette première kavana, c'est-à-dire d'une certaine manière, Rashi a commenté le mot de Kovet Roche d'après le contenu même de la soudia du Kovet Roche. Mais vous voyez à quel point il met l'accent, semble-t-il, uniquement sur un des deux éléments. Et la réponse est très simple. Le Kovet Roche, c'est à la fois Simcha et Ira. Or, Achna'a, ce n'est que le côté Ira. Qui peut donner la réponse? Vous avez compris la difficulté, enfin, la question. Il semble que Rashi tire l'explication du côté d'un des deux éléments seulement. Alors, la réponse est très simple.
On peut parvenir à la crainte uniquement.
Pardon?
Donc, une solution peut signifier également joie.
Ah non, alors justement, alors je reprends, je crois que je vais trop vite, alors je reprends l'explication. Écoutez, finalement, l'élaboration de la Gemara, qu'est-ce que c'est qu'Ovedroche ? C'est bien clairement de nous dire Simcha et Ira. Or voilà que Rashi met l'accent sur Ira, en nous disant Achnara. Si vraiment j'ai Ira, quelle sera mon attitude ? Et pas seulement d'affectivité spirituelle intérieure, mais psychosomatique totalement. Qu'Ovedroche, c'est Achnara. Okay ?
Il annonce l'explication de la Gemara.
C'est-à-dire
il n'a pas cité le verset Ido et Hachem de Ira et non pas d'autres.
Très bien, c'est ça, vous avez compris. C'est-à-dire que Rachid va dans le sens de la Gemara. Spontanément, comme vous avez dit, j'aurais pensé que, et j'ai raison, que c'est Simcha. Alors le chidouche de la Mishnah, c'est de me dire ajoute Ira. Donc Rachid dit Achna. Très clair. Michel avait cité tout à l'heure à propos du sacrifice d'Isaac. Aïn de Marbocha avec l'Ef Sameach. Hier. Quand j'ai dit. J'ai pas dormi. Et le. Non, j'ai dormi. Et bon, vous voyez à peu près ça. Ça va dans le même sens. C'est pour Achna. Et effectivement, nous allons voir immédiatement que ça va nous être confirmé par tous les Mahasiot, si j'ose dire, les Mahasim qui sont cités par la Gemara dans la suite et que nous allons. Aborder. Mais avant cela, je voudrais vous donner la kavana de la Braïta que nous avons étudiée hier, depuis le premier jour. C'est-à-dire, en amdin leit palel, l'homme itordin, tout ce problème de la machloket et de la kavana que nous avons vu avec le Rav Nachman de Ve'aftal et Hakamor. Je vous le dis très rapidement, mais au moins, simplement vous ayez une illustration de cela. Chacune des kavanot, dans le sens des mkubalim, c'est-à-dire le vrai kavanot, de l'intention de prière, et finalement appuyé sur l'enseignement que donne la Gemara, et dans l'ordre d'ailleurs. C'est ceci. Normalement, le mot de Adonai devrait être écrit avec un vav. Parce que le mot de Adonai devrait être écrit avec un vav. Or vous verrez que, toujours dans le Mikra, le mot de Adonai est écrit sans vav. Donc il y a une sorte de vav entre parenthèses. Or, si le mot de Adonai était écrit avec Vav, nous aurions comme valeur numérique du mot 71. Nous verrons tout à l'heure pourquoi. Lorsqu'il est écrit sans le Vav, il y a comme valeur numérique 65. Alors, vous étudierez dans le dénombrement qui est donné dans la paracha de Pinchas, et qui est le dénombrement qui récapitule les rescapés des dimension de l'identité d'Israël après toute la grande tribulation des 40 ans après la sortie d'Égypte. Et nous savons que l'ensemble des dimensions de l'identité d'Israël est au nombre de 70 au point de départ de toute l'histoire de d'Israël, de la descente en Égypte et de la sortie. Vous vous rappelez de ce thème? C'est au moment où la famille de Jacob est au nombre de 70 personnes que la galoute commence. Chaque fois qu'il y a une catastrophe d'identité, parce qu'il y a eu faute grave, tout de suite la Torah demande un dénombrement pour savoir est-ce qu'il y a encore en Israël un nombre suffisant de ces panim, de ces dimensions d'identité. Je généralise le thème. Et je vais aller vite, mais enfin, si ce n'est pas clair, vous m'arrêtez. C'est que Israël est en exposant à l'humanité tout entière. De la même manière que l'identité de l'universel humain, c'est 70 nations, dans le chiffre, non pas symbolique, mais enfin, disons symbolique entre guillemets. Alors, l'identité d'Israël se constitue dans Shivim Panim, c'est-à-dire 70 visages de l'identité d'Israël. Est-ce que c'est bien clair? Je vous rappelle très très rapidement, c'est un enseignement du Zohar, mais qui est transmis surtout à travers l'enseignement du Shla. Ceci, c'est que Jacob n'a vraiment reconnu ce que ses fils viennent lui dire en lui révélant que Joseph est vivant et que non seulement Joseph est vivant mais que c'est lui qui gouverne le monde, que lorsqu'il s'aperçoit d'une sorte de signe codé que Joseph lui avait envoyé par le fait que tous les cadeaux que Joseph a envoyés pour son père, la Torah nous raconte en détail, cela a été mis sur des agalos, sur des chars, comme on dit. Agala, des charrettes, des chariots, okay, sur des chariots. Or, ce mot de agalot n'est pas très habituel. Egla, c'est la génisse qui conduit la charrette.
Non, c'est le Eglon qui conduit la Egla, qui conduit la Agala, mais enfin, c'est... En général, on dit Rechev, hein? Surtout Rechev Mitzrayim, c'est l'expression habituelle. Et lorsqu'il voit les Agalot, alors il comprend le signe que lui envoie Joseph, le temps est venu que les 70 descendent en Galil. Aïn Galil. Et alors, il reconnaît ce signe. Pourquoi? Tout simplement, parce que le Midrash raconte que au moment où Jacob a envoyé Joseph à Shrem, et là où il était ses frères, et c'est lorsqu'il est arrivé à Shrem, vous savez, le séminaire de la semaine dernière, lorsqu'il est arrivé à Shrem, que ses frères ont jugé et l'ont envoyé en Galoute, le Midrash raconte qu'à ce moment-là, Joseph était en train d'étudier avec Jacob une paracha particulière de la Torah, qui est la paracha de Ragala Arufa. Vous voyez, le sacrifice, je ne traduis pas, ça nous amènerait jusqu'à Ponce Pilate, vous vous rappelez. Mais Agala Aoufa, alors Jacob a demandé à Joseph, tu comprends? Et Joseph a dit, je comprends. Alors il a dit, alors va. Vous voyez à peu près le circuit. Et donc, c'est un des thèmes que l'on...